Amélie Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.
Et maintenant, c'est Milly Méloman, la toute jeune émission de musique classique sur Divergence FM 93.9. Toute jeune émission, mais on parle de musique ancienne. Et puis, on n'a pas beaucoup de numéros derrière nous, mais on va déjà commencer des numéros hors série. Hein. Alors, c'est une espèce de snobisme un peu bizarre. Voilà, donc Milly Méloman, hors série 1. Alors, un hors série, premier numéro, qui va être consacré, il y en aura certainement d'autres, aux clásicos latinos. Eh oui, musique classique sud-américaine, car il y a une musique classique latino-américaine. Oui. Disons latino-américaine plutôt que sud, parce qu'on va commencer par l'Amérique centrale en plus. Alors, on va commencer par l'Amérique centrale avec un compositeur mexicain, Silvestre Revueltas. Hein, c'est un compositeur, on va dire, qui est vraiment du XXe siècle, parce qu'il est né le dernier jour du 19e. Il est né le 31 décembre 1899. Donc il est né avec le 20e siècle. Il a composé de choses fort intéressantes, considéré comme un des compositeurs essentiels de l'Amérique latine par nombre de ses contemporains et puis par des gens qui sont des autorités, on va dire, sur la musique latino-américaine. Peut-être que vous avez déjà entendu quelque chose de lui. Parce que la première œuvre avec laquelle on va commencer, qui est l'œuvre la plus jouée de ce compositeur, qui est écrite d'après un poème du poète cubain Nicolas Guillén, hein, qui raconte comment tuer une couleuvre, le serpent. Et la couleuvre, une fois qu'elle est tuée, elle ne peut plus mordre, elle ne peut plus rien faire. Il y a une métaphore des sociétés des Caraïbes de ce temps-là. Et ça s'appelle Sensei Maya, et Gustavo Dudamel l'avait joué, le chef vénézuélien l'avait joué dans un concert de Nouvel An. Sense Maya de Silvestre Revueltas, une œuvre qui date de 1938, qui on a souvent comparé, disant c'est un peu la même esthétique que le Sacre du Printemps, sans doute, c'est un petit peu plus tard quand même, hein, c'est plus de 25 ans plus tard, peut-être un des grands compositeurs mexicains, sinon pour certains le plus grand. Alors, une famille très douée, hein, une famille très douée. Il est l'aîné d'une fratrie qui compte, entre autres, lui comme compositeur, mais aussi deux peintres, dont Fermín Revueltas, qui est un peintre, ce qu'on appelait muralista, vous savez, qui peignait sur les murs, un peu comme à l'époque, au Mexique, il y en avait un qui était très connu, qui était Diego Rivera, hein, le compagnon de Frida Kahlo, voilà. Et puis, aussi une qui va être, une sœur qui va être actrice et écrivaine, un autre, le plus jeune, qui, lui, sera écrivain, scénariste, activiste politique. Voilà. Donc, c'est quand même une famille artiste. Lui, c'est un violoniste prodige. Très jeune, on va découvrir qu'il a un talent pour le violon extraordinaire. Son père va l'envoyer étudier à Mexico, parce que Mexico, c'est une ville à peu près calme. À peu près calme dans un Mexique extrêmement troublé. Rappelez-vous, je vous ai dit, on est au début du XXe siècle, hein, les premières années du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe au Mexique? Vous n'avez pas des souvenirs? Pancho Villa, Emiliano Zapata, la dictature de Porfirio Díaz. Donc, une période très trouble, de révolution, d'assassinat de président. Voilà, c'est quand même pas rien. Alors, ben voilà, lui à Mexico, il est un peu à l'abri. En plus, allez, on va l'envoyer, même qu'il est tellement prometteur. On va même l'envoyer étudier au Texas, à Austin. Hein, il va étudier la musique un peu sérieusement. Il va découvrir que il va découvrir la musique de Debussy et il va se découvrir des affinités avec cette musique-là. Il va aussi aller étudier à Chicago. Il va épouser une danseuse qui sera aussi bien danseuse classique que danseuse de flamenco. Et puis, 1924, les choses s'enchaînent avec ses allers-retours entre Chicago, le Mexique. Il va faire connaissance d'un autre compositeur mexicain qui, lui, va occuper des positions officielles, Carlos Chavez. Il va, dans cette période-là, dans ses allers-retours comme ça, il va composer une première œuvre qui va être importante, qui va avoir du succès et qui s'appelle « Batik ». Thank you. Voilà, vous êtes sur Divergence FM dans une émission hors série de Méli Méloman consacrée à un compositeur mexicain, Silvestre Revueltas. Et bien, ce que vous avez entendu, c'est de ses premières œuvres importantes qu'il a composées alors qu'il avait 25 ans et qui s'appelle Batik. Et c'était l'orchestre philharmonique de Moravie dirigé par Jorge Pérez Gómez qui nous interprétait cette œuvre. Alors, 1929, on avance dans les années, hein. Je vous parlais de Carlos Chavez, dont il a fait la connaissance, qui va occuper des positions très officielles dans le monde de la musique au Mexique, à Mexico. Ben, l'invite pour devenir chef assistant, son assistant, à la direction de l'Orchestre symphonique de Mexico. Et puis, accessoirement, il sera aussi professeur de violon au conservatoire. Et puis même, on va lui confier l'Orchestre des Jeunes. Hein, il sera chef de l'Orchestre des Jeunes. Donc tout semble bien aller pour lui, sauf que. Et vous voyez, dans son séjour aux États-Unis, il a pris l'habitude de consommer beaucoup d'alcool. Beaucoup. Et il a des problèmes d'alcoolisme qui commencent à s'installer. 1930, ma carrière, ça va être compositeur. Donc il va s'y lancer à corps perdu. Il lancera son troisième mariage au passage. Dans ses allers-retours avec les Amériques, il fait notamment connaissance d'un compositeur américain important, Aaron Copland. Peut-être le nom vous dit rien, mais je pense que je vous parlerai dans une prochaine émission d'Aaron Copland, un très, très grand compositeur américain. Et puis, 33, il en a marre, les charges officielles, allez, je bazarde ça, j'arrête tout ça. Il faudra pas beaucoup de temps pour que ce soit la rupture avec son ami et mentor Carlos Chavez, à tel point même qu'en 36 il va fonder un autre orchestre rival de celui que dirige Carlos Chavez. Donc il va y avoir deux orchestres à Mexico avec des publics différents, sauf que les musiciens ils se partagent entre les deux orchestres. Il n'y a pas tant de musiciens que ça, donc vous voyez, ça fait très cliché sud-américain, cette affaire-là. Mais voilà, c'était comme ça. Il va commencer par travailler pour le cinéma en 1935 aussi. Il y a un réalisateur, Paul Strand, qui va faire un film sur les pêcheurs du Mexique. Ça va s'appeler Poisson. Puis après, ça va s'appeler de façon plus intéressante, Redes. Redes, c'est les filets en espagnol. Hein. Et voilà, il va composer cette musique. Il va en faire une suite. Le film a été un petit peu oublié dans l'histoire du cinéma, mais est une étape importante de l'histoire du cinéma mexicain. Et puis surtout, une musique qui vaut la peine.
Thank you.
Voilà un extrait de Redes, musique pour le film qui porte ce titre-là, le début de la suite qu'il a composée à partir de ce film, la musique de ce film qui s'appelle Le Pêcheur, tout simplement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, ah oui, les interprètes quand même, les interprètes, bah c'est les mêmes que tout à l'heure pour Sensemaia, hein, l'orchestre Simon Bolivar et Eduardo Mata qui dirige cet orchestre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez compris qu'il vit dans un contexte politique quand même agité. Lui-même est très engagé. On a, beaucoup de compositeurs sont un peu dégagés de la politique. Lui, non, il était très engagé dans la politique. Il est nommé président de la Ligue des écrivains et artistes révolutionnaires au Mexique. S'il vous plaît, bien sûr, soutien actif des communistes. Il va d'ailleurs apprendre la mort. Il y a la guerre d'Espagne en Europe. Il va apprendre la mort de García Lorca. Et il va composer un hommage à Federico García Lorca, qui va être joué le 14 novembre 1936. Vous voyez, donc tout de suite, il n'a pas perdu de temps, il a été tellement impacté par ça que tout de suite, il a écrit cette œuvre-là. Et dans la foulée, eh bien, il va aller en Espagne. Il va aller en Espagne, qui est en pleine guerre civile. Il va partir, avec, ils sont quelques Mexicains à partir ensemble, entre autres un jeune poète qui s'appelle Octavio Paz. Hein, pour ceux qui aiment la littérature et la poésie, Octavio Paz, Liberté sur parole, et puis Le labyrinthe de la solitude, un grand écrivain dans la littérature mexicaine, quelqu'un qui a compté. Parenthèse, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment de la guerre d'Espagne, la plupart des pays s'en fichent un petit peu. Hein, la France n'a vraiment pas fait grand-chose. D'autres pays sont carrément hostiles. Il y a deux pays qui soutiennent, l'Union soviétique et le Mexique. Le Mexique qui va accueillir les réfugiés après la guerre d'Espagne. Donc il va aller là-bas, il va diriger deux de ses œuvres à Valence au mois d'août. Et puis il ira aussi diriger à Madrid, hein, où il va rencontrer un poète qui va être enthousiaste de sa musique, qui est Rafael Alberti. Il aura envie de poursuivre son voyage jusqu'en Union soviétique. Problème de visa et ainsi de suite. Il n'y parviendra pas. Il revient au Mexique en 1938. C'est Sensemaia avec lequel nous avons ouvert cette émission. Et puis, son alcoolisme pose de sérieux problèmes. Pose de sérieux problèmes à tel point qu'il va être interné dans une structure psychiatrique parce que ça ne va vraiment pas du tout, pas du tout. En parallèle, il continue à composer pour le cinéma. Je vous mettrai une de ses dernières œuvres qu'il a pu composer. Il mourra à 40 ans. Hein. Donc vraiment, vous voyez, il n'a pas vécu longtemps. Alors, quelques petits propos qu'il a tenus, qui illustrent un peu le personnage, qui nous permettent de le comprendre. Par exemple, des propos sur la vie culturelle, musicale au Mexique. En 1932, il disait « Pourquoi un artiste, un créateur, devrait-il souffrir de la faim et de la misère ? C'est là, parmi nous, le secret de l'échec de la culture mexicaine en tant que peuple. Nous sommes un pays de sans-chemises et de faux-monnayeurs. Nous méprisons le musicien, le peintre, le poète, car nous considérons comme les bouffons qui cabriolent au banquet des bureaucrates. Mais ils se sont fait bouffons poussés par la faim. Bien que beaucoup d'entre nous se rebellent, la rébellion n'est que solitude, solitude infertile, abandon, misère. Vous entendez l'engagement, en même temps, ces dimensions un peu désespérées. Sur la guerre d'Espagne, puisque elle a beaucoup touché la guerre d'Espagne. Je sens la douleur et l'impuissance m'envahir, sans lumière, dans le découragement. Que suis-je face à cette tragédie? Que puis-je faire? J'ai honte d'aller tranquillement dans la rue. J'envie le plus humble des combattants. Je suis bouleversé en pensant au travail de nos artistes pleins de vanité, de présomption, d'égout et tristesse. Comment ne pas se sentir opprimé, blessé, petit, inutile face à un homme qui meurt, un enfant ou une femme qui pleure? Et qu'ont-ils à faire de quelques sons ou de quelques lignes écrites? Il savait tenir la plume, hein, la traduction, je n'ai pas trouvé de traduction, donc je me suis permis de la faire, mais il y a une sacrée écriture. Et puis, il parle même de son internement psychiatrique. Hein. Et c'est assez déchirant. Pauvre humain blessé, tout le fait souffrir. Il voit les arbres, les maisons. Il ne tremble pas et ne souffre pas. Mais l'homme est impuissant, il pleure en lui-même. Chacune de ses fibres est un sanglot sans fin, ouvert, comme un flot de larmes. Comme ces cris que l'on entend la nuit, sans remède. Pleurs d'un enfant, pleurs d'un homme, tout est pleurs que rien ne peut endiguer. Donc vous voyez, quelqu'un qui était... c'est sa fin de vie, il est quand même dans une institution psychiatrique. Un compositeur majeur, mexicain majeur, hein, certains disent, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il n'utilise pas la musique folklorique mexicaine, et pourtant, sa musique est mexicaine jusqu'au bout des ongles, alors qu'il n'utilise pas le folklore mexicain. Voilà, allez, on va se quitter avec de ses œuvres, qui est la seule œuvre qu'il a écrite pour le ballet, pour la danse. Hein, c'est un compositeur espagnol qui lui a donné l'idée, Cristóbal Halffter, qui est immigré d'Espagne, mais qui est arrivé au Mexique. Ça s'appelle « La noche de los mayas », »,« La nuit des mayas ». Et puis, allez, à tout seigneur, tout honneur, on va prendre un jeune chef d'orchestre tout à fait capable de porter ça et qui a cet enthousiasme, c'est Gustavo Dudamel qui dirige « La noche de los mayas ». Et à bientôt.